7h25, l'heure du reportage de la rédaction. Il s'intéresse aujourd'hui aux applications alimentaires. Elles s'appellent Yuka, Open Food Facts ou encore Y'a quoi dedans, et elles permettent en un clic de savoir ce que contiennent les produits que l'on achète. Bousculée par la demande de transparence des consommateurs, l'industrie agroalimentaire se lance sur le même terrain et lance ses propres applications. Le consommateur en sortira-t-il gagnant? Un reportage signé Catherine Pétillon.
Qui détient les informations sur ce que contiennent nos aliments? Alors que cette question est devenue cruciale, l'industrie agroalimentaire a décidé de constituer sa propre base de données numériques, baptisée Codes Online Food. Elle rassemble de manière standardisée les informations fournies par les industriels eux-mêmes. Voilà qui convainc déjà un certain nombre de concepteurs de services autour des aliments, comme l'application AllergoBox qui signale la présence d'allergènes. Seulement, l'accès direct à ces informations sera soumis à cotisation. Pour être transparent, les industriels auraient pu transmettre ces informations à une base de données citoyenne, gratuite et ouverte, comme Open Food Facts, déplore son créateur Stéphane Gigandet.
Pour Open Food Facts, les données sur les produits alimentaires, c'est vraiment des données qui sont d'intérêt public, parce qu'elles servent à énormément de choses, que ça soit décrypter les étiquettes, pouvoir comparer les produits entre eux, pouvoir suivre l'évolution des produits dans le temps, voir est-ce que c'est vrai quand l'industrie dit que c'est pas la peine de réguler le sel, le sucre et le gras parce qu'on va faire des efforts. Voilà, ça peut orienter les politiques publiques, ça sert pour la recherche. Donc c'est vraiment très très important que les données sur les produits alimentaires soient publiques.
Open Food Facts a d'ailleurs reçu 15 000 euros de l'Agence nationale Santé publique France afin d'améliorer l'intégration des données transmises par les industriels. Dans le même temps, Bercy finance à hauteur de 3 millions d'euros, dans le cadre d'un programme d'investissement d'avenir, un autre projet, baptisé Numalim, et porté entre autres par l'ANIA, l'association représentant l'industrie alimentaire. Outre les données de Code Online Food, il prévoit de publier de nombreuses autres informations, explique Sandrine Blanchemanche, directrice alimentation saine, sûre et durable à l'ANIA.
On peut imaginer avec Numalim, une application qui, quand vous scannez votre produit, qui vous dit bah non, ça correspond pas à votre état de santé, à votre allergie, ça correspond pas à vos objectifs nutritionnels que vous avez enregistrés auparavant. L'enjeu de la plateforme de données massives va bien au-delà de la catégorisation des produits, qui est vraiment important pour nous, c'est de pouvoir agréger à ces données produits, des données d'une autre dimension qui vont concerner la santé des populations, le statut économique, le prix des produits, la qualité nutritionnelle des produits, l'origine des produits, notamment pour permettre la traçabilité des produits.
C'est là le principal enjeu. Comment sont établis les scores ou notes qui pourraient guider les choix des consommateurs? Rappelons qu'un certain nombre de corrélations ne sont pas scientifiquement établies. Par exemple, sur Yuka, 30% de la note d'un produit dépend de la présence d'additifs. Cette proportion est un choix des concepteurs de l'application et non le résultat de la recherche. Pour Marine Friant-Perrault, maîtresse de conférence en droit à Nantes et spécialiste de la consommation alimentaire, en développant ce type d'application, les industriels espèrent reprendre la main. Cela soulève des questions de fond. Qui va traiter les données et selon quels critères?
Sur quoi est-ce qu'on met un éclairage? Est-ce qu'on met un éclairage plutôt sur la dimension nutritionnelle? Est-ce qu'on essaye de contrebalancer un score nutritionnel défavorable par des indicateurs environnementaux qui pourraient être plus favorables à l'aliment? Il y a aussi une volonté sûrement de diluer un peu le Nutri-Score parce que tout le monde n'y est pas favorable. Et donc finalement de noyer un peu le Nutri-Score dans d'autres dimensions de l'alimentation qui sont liées au mode de production, à l'empreinte environnementale. Ce sont des informations importantes, mais toute la question c'est la hiérarchisation des informations qu'on donne aux consommateurs.
Le Nutri-Score est un étiquetage associant des couleurs, du vert au rouge et des lettres pour permettre aux consommateurs de voir vite la qualité nutritionnelle. Et pour Serge Ekberg, ancien président du Programme National Nutrition Santé, il reste la priorité.
Ces applications, quelles qu'elles soient, sont certes intéressantes, mais ce que l'on souhaite sur le plan de la santé publique, c'est que l'information elle soit disponible sur l'emballage en face avant, qui fait qu'au moment de l'acte d'achat, on puisse disposer de ces informations. Et on sait d'autant plus que ces applications ne sont pas utilisées par les populations les plus vulnérables, les plus défavorisées, qui sont à plus haut risque de problématiques nutritionnelles.
Adopté désormais par près de 200 marques, dont récemment le groupe Nestlé, le Nutri-Score est encore largement contesté. Une pétition citoyenne, en ligne jusqu'au mois de mai, réclame à la Commission européenne de rendre cet étiquetage obligatoire.
Le reportage de la rédaction, il est signé Catherine Pétillon.